matin.
Dimitri Pavlenko.
Et à la une ce matin, la mémoire courte et parfois même plus de mémoire du tout. Journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Elle touche 225 000 Français de plus chaque année. Dans les EHPAD, on tente de réveiller leurs souvenirs avec des voyages dans le temps. Réunion au sommet ce matin. Emmanuel Macron convoque un conseil de défense sur l'affaire des sous-marins dans une heure. Il a reçu cette nuit le soutien des instances européennes. En Allemagne, les élections législatives approchent. C'est dimanche. On s'intéressera dans ce journal à Olaf Scholz, le social-démocrate, actuel ministre des Finances d'Angela Merkel. Il est en tête dans les sondages et tente de relancer la gauche allemande, la gauche française. On en parlera, Sonia Mabrouk, avec votre invité à 8h15. Bonjour.
Bonjour à vous Dimitri, bonjour à tous. Mon invité, c'est donc le candidat à la présidentielle Arnaud Montebourg. Il espère la remontada pour la France. Et il faut le dire un peu pour lui-même dans les sondages, son projet, ses ambitions et ses propositions. À tout à l'heure pour en parler.
À tout à l'heure. Le journal Fanny Marceau, bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Trouble de la concentration, perte de mémoire jusqu'au visage de ses propres enfants. Voilà ce que la maladie d'Alzheimer provoque chez environ 1 million de Français. C'est aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre cette pathologie. Aucun médicament efficace n'a encore été trouvé. Alors au quotidien, ce sont des petites attentions qui entretiennent les souvenirs, comme à l'EHPAD Corian Quieta à Montigny-le-Bretonneux. Élise Dangean s'est rendue dans son unité Alzheimer pour Europe 1.
Alors c'est une Ford Mustang de 1965. Alors,
Benjamin Joigny offre un voyage dans le temps à ses résidents. Collectionneur de vieilles voitures, le directeur de l'établissement se transforme pour l'occasion en chauffeur sur le siège passager. Denise, 88 ans, qui est à un stade avancé de la maladie, mais qui n'est pas dépaysé par le véhicule.
Je suis gâtée.
Au bout de quelques mètres, passé le choc d'un monde qui ne ressemble plus tout à fait à celui de sa jeunesse,
qu'est-ce qu'il y a comme bagnole ?
La mémoire lui revient un peu.
Je suis déjà passée une fois par là, je ne sais plus pourquoi.
Une victoire pour l'équipe soignante à bord, car il ne s'agit pas d'une simple balade dans cette voiture qui sert de capsule temporelle. On évalue l'état du patient avec quelques questions.
Son métier, c'était quoi votre papa ? Sa profession ?
Ébéniste.
Les souvenirs qui restent préservés le plus longtemps, c'est les souvenirs qu'on a emmagasinés entre l'âge de 10 ans et l'âge de 35 ans. Donc là, pour cette population ici, ça nous ramène dans les années 60-70.
L'établissement prévoit même d'aller plus loin et de se mettre complètement aux couleurs de l'époque. Époque, repas, vaisselle, déco et même musique, le tout pour raviver la mémoire des résidents.
Qui c'est ?
Edith Piaf.
Ah oui, mais j'étais toute jeune quand elle a passé.
Un reportage européen d'Élise Dangean.
La méthode Hibernatus, ça fonctionne, c'est assez incroyable. Dans une heure, rendez-vous à l'Élysée pour un conseil de défense exceptionnel sur l'affaire des sous-marins australiens.
Une crise diplomatique qui oppose les États-Unis, le Royaume-Uni et donc l'Australie. Crise qui s'est d'ailleurs invitée à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, où Jean-Yves Le Drian a porté le message français.
Nous pensions que la page de l'unilatéralisme, de l'imprévisibilité, de la brutalité de l'annonce, du non-respect du partenaire, faisait partie du passé. Et là, cet état d'esprit perdure dans une initiative imprévue, cachée, brutale. Donc on veut comprendre. Parce que le principe de base de partenaire, et nous sommes des alliés, c'est qu'on se parle. C'est ça qui nous surprend, qui est choquant. Et c'est pour ça qu'il y a une crise de confiance. C'est comme si l'Europe n'avait pas elle-même d'intérêt à défendre dans la zone concernée. Mais les Européens ont eux aussi leurs intérêts fondamentaux. Et que les Européens ne soient pas les laissés pour compte de la stratégie choisie par les États-Unis, parce qu'eux-mêmes ont défini leur propre stratégie.
Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian depuis l'Assemblée générale des Nations Unies où les représentants des instances européennes ont apporté leur soutien à la France. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a estimé que la façon dont la France a été traitée est, je cite, inacceptable.
La Chine de son côté s'indigne de la nouvelle alliance constituée par l'Australie, les États-Unis et l'Angleterre. Elle estime, la Chine, que cette alliance va perturber la stabilité dans la région Indo-Pacifique. Elle craint surtout de perdre un peu de son influence dans cette zone.
Ça fait des années qu'elle place ses pions. Pékin a même des vues sur les territoires d'outre-mer français, la Nouvelle-Calédonie notamment, Sébastien Le Belzic.
C'est un tout petit territoire français, 300 000 habitants à peine, très loin de l'Hexagone en plein océan Pacifique. Mais il intéresse tout particulièrement la Chine. Plusieurs raisons à cela. D'abord un intérêt économique. La Nouvelle-Calédonie possède la deuxième réserve de nickel au monde et la Chine est son premier client. Mais l'archipel a surtout un intérêt stratégique pour Pékin. À une encablure de l'Australie lui permettrait de contourner l'axe militaire des États-Unis et de ses alliés qui cherchent à bloquer l'expansion maritime chinoise. Selon les services de renseignement français, la Chine soutient les mouvements indépendantiste kanak. Le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie qui aura lieu le 12 décembre prochain est l'occasion pour Pékin de placer ses pions via notamment l'association de l'amitié sino-calédonienne contrôlée et financée par le Parti communiste chinois. Une Nouvelle-Calédonie indépendante tomberait de facto dans la zone d'influence chinoise, comme avant elle le Vanuatu et d'autres petits territoires du Pacifique passés sous domination économique de Pékin. Une perspective qui explique en partie la volonté australienne et américaine de reprendre la main dans la zone. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Europe 1, il est 8h06, retour en métropole. Triste anniversaire aujourd'hui à Toulouse, 20 ans que l'usine AZF a explosé.
Il était 10h17, tout juste, 31 morts, 2500 blessés, des milliers de sinistrés. Aujourd'hui, comme chaque année, il y aura une commémoration sur le site, l'ancien cœur du pôle chimique de Toulouse qui s'est transformé au fil des ans, comme le montre ce reportage de Benjamin Péter.
De la route, on aperçoit d'abord une vaste friche envahie par la végétation. Ce n'est qu'après plusieurs centaines de mètres que des cheminements délimitent le mémorial AZF où se déroulent les cérémonies. Pour l'adjoint aux politiques culturelles et mémorielles, Francis Grasse, c'est un espace qui doit reprendre vie.
Aujourd'hui, le site est une zone un peu vierge. Oui, il y a toujours le cratère qui n'a pas été libéré, décelé. C'est des secteurs qui sont probablement urbanisables, c'est-à-dire qu'il y a encore des possibilités de développement. On a créé un site photovoltaïque, que vous avez vu derrière. Et cette partie de mémoire, elle est préservée. On voudrait que ça soit un lieu de visite, signalé en ville pour qu'on puisse y aller.
Plus au sud, le pôle chimique a laissé la place aux biotechnologies, avec en tête l'Oncopole, ouvert en 2014. Pour son directeur, le professeur Jean-Pierre Delors, implanté ici, ce pôle d'excellence, consacré aux soins et à la recherche, ça avait du sens.
Les milliers de patients qu'on a pris en charge depuis maintenant un peu plus de 6 ans qu'est ouvert ce centre, sont probablement eux les meilleurs témoins qu'on peut faire vivre l'espoir sur un site comme celui-là. Une grande catastrophe d'un côté, un grand espoir de l'autre.
À terme, 8000 personnes devraient travailler ici et l'arrivée prochaine du téléphérique qui reliera l'Oncopole au CHU et à la fac de médecine devrait permettre de désenclaver la zone. À Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
Aucun fonctionnaire en dessous du SMIC à partir du 1er octobre. La promesse d'Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publique ce matin, à l'ouverture de la conférence sur les perspectives salariales des fonctionnaires, elle annoncera une hausse des salaires des agents afin qu'ils soient au moins au niveau du SMIC ou juste au-dessus. Le salaire minimum qui sera mécaniquement augmenté d'ici 10 jours en fonction de l'inflation.
Au Canada, Justin Trudeau, de nouveau Premier ministre, troisième mandat pour lui à l'issue d'une campagne difficile.
Un Premier ministre, oui, mais il n'aura pas la majorité absolue, ce qu'il espérait pourtant en provoquant ces élections législatives anticipées. Écoutez sa première réaction.
Ensemble, les Canadiens sont capables de surmonter tous les obstacles. Et c'est exactement ce qu'on va continuer de faire. Je vous ai entendu. Ça vous tente plus qu'on parle de politique ou d'élection. Vous voulez qu'on se concentre sur le travail qu'on a à faire pour vous.
Voilà, Justin Trudeau, cette nuit, juste après la victoire de son camp aux législatives. En Allemagne, maintenant, c'est dimanche que les électeurs sont appelés aux urnes pour les législatives. Élection qu'Europe 1 suit pour vous toute la semaine.
Parmi les candidats, Olaf Scholz, social-démocrate, ministre des Finances sortant. C'est lui qui est en tête des sondages. Sa campagne, il l'a surtout appuyé sur sa ressemblance avec Angela Merkel et Helen Kohl.
Dans cette campagne, les Allemands lui ont trouvé un surnom, le Scholzomat, car il est comme un automate, impassible dans toutes les circonstances, posé, rassurant, sérieux. Merkel, au masculin, note un éditorialiste vedette de la télé.
Wenn er eine Frau wäre, würde er auch ihre Hosenanzüge tragen.
S'il était une femme, il porterait même ses blazers, plaisante-t-il. Olaf Scholz propose une augmentation du salaire minimum et un impôt sur la fortune, mais son programme est plutôt au centre. Comme Merkel, il refuse que l'Allemagne s'endette. Il trouve très bien qu'il y ait des règles de stabilité communes en Europe. Pour le climat, il s'en tient au compromis négocié l'an dernier avec la droite, qui ne prévoit une sortie du charbon qu'en 2038. Une continuité tellement assumée avec le gouvernement sortant que la chancelière a dû plusieurs fois remettre l'église au centre du village et rappeler que son véritable héritier, c'est l'autre candidat, Armin Laschet de la CDU, avec lequel elle sera d'ailleurs ce soir en meeting. Berlin, Hélène Kohl, Europe 1.
Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.